Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, en compagnie de mes collègues Gabriel Gélina et Hugues Gonneau.
Bonjour.
Je suis très heureux cette semaine de pouvoir affirmer être le plus jeune autour de cette table.
Ça part fort.
Et on va tout de suite commencer avec une nouvelle d'importance pour le Honda CR-V qui va finalement être disponible en hybride rechargeable. Mais pas chez nous.
Exact.
Et pas avec un moteur à essence. Deux choses qui nous affectent particulièrement. En fait, on lance, Gabriel, un CR-V hybride rechargeable à hydrogène. Des choses dont on a vraiment besoin sur le marché. Quelle bonne idée.
Mais écoute, on se demande vraiment pourquoi Honda décide d'y aller avec ce projet-là. Point. On se demande aussi pourquoi des constructeurs comme... Toyota continue de développer la Mirai, comme Hyundai continue avec le Nexo. Des véhicules qui ont une diffusion presque confidentielle.
Nul, ça se vend qu'à des flottes de gouvernement
pour
des tests.
En Californie, on en voit un peu. Oui.
On en voit un peu, mais une autre chose aussi qui est survenue récemment en Californie, c'est qu'ils avaient implanté un certain réseau de stations d'alimentation en hydrogène.
Ouais.
Ça, c'était à l'époque où Arnold Schwarzenegger était le gouverneur de la Californie. Lui avait décidé qu'il allait implanter ça là, dans le corridor de Los Angeles jusqu'à
San Diego,
oui, même aussi un peu plus au nord. Mais bref, là, récemment, ils viennent d'annoncer qu'ils vont fermer plusieurs de ces stations-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a personne qui s'en va prendre du carburant, de l'hydrogène à cet endroit-là. Donc, on lance ce modèle-là, probablement plus comme un ballon d'essai ou je sais pas quoi, là, ou développement de la technologie.
Hey, arrêtez-moi ça. Ça fait 20 ans qu'on essaye des ballons d'essai avec de l'hydrogène chez Honda.
Ça, mais tout le monde, jamais tout le monde, regarde, il y a 20 ans, il y a 22 ans, Ouais, 22 ans, GM avait présenté l'autonomie et la Highwire, le skateboard intégré.
Exact.
Et c'était déjà plutôt pas mal au point. Et en fait, l'époque, GM, ils étaient comme crinqués solides.
Mais
on n'a jamais rien vu.
Pourquoi est-ce que les constructeurs japonais et les constructeurs coréens aussi, parce que Hyundai travaille là-dessus, il y a aussi BMW qui continue de travailler cette filière hydrogène. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Selon moi, et c'est mon opinion personnelle, c'est parce que ils perçoivent que les véhicules électriques à batterie, ça, c'est l'affaire de la Chine.
Okay?
Ouais. Et il y a toujours une rivalité commerciale entre ces pays-là et plus que commerciale si on regarde l'histoire entre ces deux pays-là. Ils se disent, on ne pourra pas jamais compétitionner contre la Chine pour des véhicules électriques à batterie. Il faut trouver une autre voie. Il faut explorer une autre voie. Et de toute façon, c'est pas mauvais non plus qu'on explore cette autre voie.
Je pense que les constructeurs ne peuvent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.
Exact.
Et le premier qui arrive à faire un breakthrough sur l'hydrogène, il peut ramasser quelque chose. Mais encore une fois, ça fait... Le premier véhicule à pile à combustible, c'est 66.
Non, mais le FCX chez Honda, ça fait longtemps. Là.
Mais le premier prototype, c'est 66.
Ouais, exact.
Avec l'électrovan chez GM. Et on cherche, puis ça, ils arrivent à miniaturiser, mais bon, ça n'avance pas.
On sait que ça fonctionne. T'sais, moi, je me souviens aussi d'avoir déjà conduit une BMW série 7, un moteur V12, qui elle brûlait de l'hydrogène.
En 2007.
De l'hydrogène liquide. Puis pour que l'hydrogène soit liquide, il faut qu'il soit dans un réservoir à moins 275 degrés Celsius. Je peux te dire que les parois du réservoir étaient épaisses.
Non, c'est clair. Donc, moi, j'avais discuté avec les ingénieurs à l'époque. Ils m'avaient dit, on ne savait plus comment tester le truc. À un moment, on a pris une Kalachnikov, on a tiré dessus.
Exact.
Wow.
Mais tout ça pour dire qu'on sait que ça fonctionne avec de l'hydrogène. Cette voiture-là roulait parfaitement avec pas autant de puissance que lorsqu'elle consommait de l'essence, c'est le même moteur, mais ça fonctionnait. Une pile à combustible alimentée à l'hydrogène, on sait que ça fonctionne. C'est une façon de produire de l'électricité à bord du véhicule. Et on sait que ça fonctionne. Le problème, c'est que de l'hydrogène, on en trouve où? C'est l'élément le plus abondant sur la planète, mais il est toujours jumelé avec un autre élément.
Oui.
Puis il faut, pour produire de l'hydrogène pur, il y a un coût énergétique qui est associé à ça. On voit souvent des centrales au gaz naturel là, pour produire, qui brûlent du gaz naturel pour produire de l'hydrogène, qui va ensuite être combiné à de l'oxygène lorsqu'une voiture à pile à combustible roule pour produire de l'électricité, pour faire rouler le véhicule.
Non, mais le seul intérêt de l'hydrogène, c'est sur du transport routier.
Exactement. Pour les camions lourds.
C'est le seul intérêt.
Exact.
Transport routier, bus, passagers, choses comme ça, où là, le temps de recharge est un facteur extrêmement critique.
Voilà.
Et au lieu de 12 heures, 10 minutes, bah là, oui, ça a un intérêt. Mais pour la voiture particulière, je vois pas. Je vois vraiment pas. En termes de rendement, en termes d'énergie, en termes d'infrastructure, en termes de... Je ne vois pas.
En termes de coût aussi.
C'est ça. Parce que c'est l'infrastructure...
Combien d'argent est-ce que Hyundai perd sur chaque Nexo? Combien d'argent est-ce que Toyota perd sur chaque Mirai?
Ça doit être
hallucinant.
Absolument.
Mais en même temps... Moi, j'ai pas de problème à ce que tu développes une technologie puis que tu arrives même, parce que ce CRV-là a ceci de particulier, de pouvoir faire à peu près 45 km en tout électrique avant de tomber en mode hydrogène.
Parce qu'ils ont mis une batterie un petit peu plus grosse, voilà.
Mais
c'est pas plus compliqué que ça.
Mais sors ça après avoir lancé un VUS compact hybride rechargeable.
Ouais,
tu sais, je veux dire... Honda fait ça, mais ils n'ont rien pour rivaliser un RAV4 Prime, un Outlander PHEV, un Tucson plug-in hybrid ou un Ford Escape hybride rechargeable.
Non, mais ils doivent avoir des subventions de la Californie ou de l'État américain pour continuer à développer des trucs comme ça.
Oui, parce mais je veux dire, le modèle
commercialement
d'affaires financiers,
parlant,
ça marche
pas.
Il n'y en a pas.
Fait
que tu te demandes vraiment à quoi on pense chez Honda quand tu regardes le réseau actuel, parce qu'on s'entend que le pain et le beurre des constructeurs actuellement, mis à part, bon, les F-150 et Silverado de ce monde, c'est des VUS compacts. Là.
Oui, sans mettre à l'heure.
Ça t'en prend un hybride rechargeable. Là.
Absolument.
Allô, Honda, vous avez le deuxième véhicule le plus vendu au Canada en dehors des pick-up pleine grandeur. Mm. Vous venez d'arriver avec un hybride. Bonjour, on est en 2024. Et là, ben, l'hybride rechargeable se fait attendre, puis vous me lancez ça, là.
Mm-hmm.
De que c'est, pourquoi? C'est ça la question. Là. Alors, on en parle beaucoup, mais vous ne le verrez pas chez nous, ça ne se vendra pas au Canada, et c'est une autre excellente idée signée Honda. Par contre, Apple a eu une excellente idée, c'est d'abandonner le projet de fabriquer une voiture. Ils travaillaient sur ce qu'ils appelaient le Apple Car, qu'on n'aura finalement jamais vu.
Qui a pris naissance, c'était le Titan Project, Project Titan chez Apple, ça c'était le nom de code de ce projet spécial de développer une voiture de marque Apple.
Oui, on me dit à l'oreille que Nissan ne les a pas poursuivis pour l'utilisation du nom parce qu'ils s'en sacraient éperdument.
Mais toujours est-il, je pense que du côté d'Apple, ils se sont rendus compte jusqu'à quel point c'était compliqué que d'assembler un véhicule. Mm. C'est une autre...
écrire des logiciels, faire du software. Mais
exactement, faire des iPhones, des iPads, des
ordinateurs. Elon Musk a déjà dit ça il y a quelques années.
Exactement.
Si j'avais su que faire des voitures, c'était aussi compliqué.
Et voilà. Puis Elon Musk, quand ils sont partis la Model 3, il parlait de production hell. Quand il s'agit de faire la production à grande échelle, à grand volume, ils sont passés dans le tordeur. Ils ont vécu des mois d'enfer pour réussir à maîtriser ça.
Absolument.
Et puis là, j'ai l'impression que du côté de chez Apple, c'est la même chose. Et d'ailleurs, le chef de file de ce projet-là, l'employé qui était assigné à ça, parti ailleurs, un paquet d'ingénieurs qui sont partis ailleurs aussi, c'est sûr.
Mais en même temps, Moi, je pense que tout ce qui a été fait sur ce projet-là n'est pas perdu. Parce que forcément que la technologie qu'ils ont développée, ils vont la vendre à d'autres constructeurs automobiles ou à d'autres compagnies de software qui vont finalement lancer quelque chose.
C'est possible.
Apple n'est pas fort sur le licensing. Hein?
Non, ça c'est vrai.
Non, c'est ça. Non, mais en même temps, je veux dire, ils sont pas mal plus forts à développer, bon, clairement, de la technologie de ce genre-là que de fabriquer une voiture. On s'entend. C'est le cas de Tesla, d'ailleurs.
Exact. Mais il y a un autre truc aussi, tu sais, je pense qu'on l'a vu, toi et moi, cette voiture-là, tu sais, la Sony Aphila.
Ouais, okay? Ouais.
Donc, un autre projet, tu sais, Sony qui construirait une voiture électrique aussi.
Ouais.
Un projet qui est quand même relativement avancé, mais qui est toujours
au stade.
Mais ils ont été chercher des partenaires. Eux, ils sont clairement occupé du software.
C'est ça.
La partie voiture.
Exactement.
On ne sait pas faire.
Il y a un partenariat avec des gens qui savent comment construire des voitures et ça, c'est une grosse, grosse partie de l'équation.
Et ça, c'est Honda qui fabrique des voitures à hydrogène. On n'a pas besoin. Bon. c'est bien ceux-là. Hein?
Exact.
Volkswagen, vers la fin de cette semaine, a dévoilé le ID4 2024. Et là, on s'attendait du moins à vraiment beaucoup de renouveau avec ce modèle-là. Pas nécessairement une refonte de carrosserie et tout ça, mais on s'attendait à une technologie beaucoup plus poussée. Et moi, ce qui me faisait dire ça aussi, c'est les rabais qu'on venait appliquer sur les 2023, qui sont toujours en cours d'ailleurs, avec des modèles qui collent dans les cours des concessionnaires. Et là, on a dévoilé les spécifications techniques. Alors, je les lis en rafale. La version à batterie de 62 kWh avait une autonomie de 336 km. Aujourd'hui, le 2024 a 332 km. Alors, on est à moins 4 km. Bonjour la révolution. Mm-hmm. La version propulsée passe de 468. Donc, on gagne 25 km. Bravo.
Whoopi.
Et la version à 4 roues motrices, ben, elle avait 410. Elle fait maintenant 423. C'est ça, la révolution Volkswagen? Oui, il y a un plus gros écran à l'intérieur. Semble-t-il que vous allez pouvoir voir votre application Apple CarPlay en 3D ou je sais pas quoi. Ça va être juste un peu plus cute. Mais
ça y est, la marque est sauvée.
Mis à part ça, il n'y a pas d'évolution. On dit qu'on va lancer une version performance d'un modèle propulsé qui va certainement connaître beaucoup plus de succès aux États-Unis que chez nous, parce que nous, on n'en veut pas vraiment. Et ils sont tous, admissibles à des crédits, les ID4. Alors, les gens ici au Québec se garochent, si tu me permets l'expression, davantage sur les modèles 4 roues motrices. Puis les prix n'ont pas baissé non plus, malgré le fait que là, on en a plein les cours des ID4. Alors, je n'ai aucune idée d'où est la révolution, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Louis-Philippe va nous en parler à son retour la semaine prochaine parce qu'il s'en va le conduire. J'ai l'impression qu'il va revenir ici un peu la queue entre les deux jambes.
Ben, écoute, moi, j'ai l'impression que si des changements... clairement, là, tu sais, il y a pas d'amélioration ou très, très peu pour ce qui est de l'autonomie. Peut-être que c'est des changements plus de logiciels ou de logiciels d'exploitation du système, ce genre de choses-là.
Ouais.
Où on essaye de maîtriser un peu mieux les flux d'énergie sur le véhicule, ce genre de choses. Mais à ce que l'on voit, c'est les mêmes batteries, c'est la même technologie de batterie. Il n'y a pas une nouvelle chimie de batterie, il n'y a rien
non,
à ça.
Non, c'est ça. Puis en fait, c'est fascinant de constater comment l'industrie change rapidement.
Ouais.
Parce que moi, je me souviens, il y a à peine 18 mois, je suis allé faire l'essai du ID4 fabriqué à Chattanooga, au Tennessee, parce que les premières unités venaient d'Europe. Alors là, on est allé essayer cette version fabriquée en Amérique du Nord pour le marché nord-américain. On avait redessiné un peu la console, changé quelques éléments à l'intérieur, modifié un peu les groupes d'options pour que ça réponde mieux aux besoins des Nord-Américains. Et tout de suite, on nous avait dit, écoute, on va en fabriquer 5000 par mois à l'usine de Chattanooga et on espère être capable d'avoir 6 ou 7% de cette production qui va venir au Canada. Au début, c'était même pas ça, parce que là, c'était la nouveauté, les Américains en voulaient, bon. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est point. À un moment donné, il n'en voulait plus. Et le Canada a finalement hérité d'un paquet de modèles qui arrivaient, qui débarquaient chez les concessionnaires dans un free-for-all épouvantable. Parce que là, tu avais une liste de commandes. Tu sais que Volkswagen, tu ne peux pas acheter directement ou tu ne peux pas commander un ID4 par ton concessionnaire ou avoir un traitement de faveur. Il y a une liste qui existe. Il faut que tu ailles le commander en ligne et même le vendeur va le faire pour toi. Mais tout le bordel a pris là-dedans, si bien que toi, tu avais commandé un 4 roues motrices bleu avec un ensemble statement. Ben, il arrivait rouge avec des roues noires propulsées. Et c'était le bordel. Ouais. Puis là, on te proposait quelque chose que tu n'avais pas commandé. Le veux-tu? Non. OK. Mmh. Ça a été ça pendant des mois. Et là, ben, ça colle dans les cours des concessionnaires depuis quelques mois. Dès 2023, on est à la première semaine de mars 2024. Et les taux sont à 2,9 et ça ne sort pas encore.
Oui, c'est ça. Wow. Mais ce qui arrive aussi, c'est que je pense qu'ils anticipaient, clairement, une forte demande aux États-Unis qui n'est jamais venue. Parce que aux États-Unis, l'adoption des véhicules électriques, c'est un réel problème.
Ouais.
Mis à part Tesla, mis à part des voitures haut de gamme, Tesla, c'est un
statement. C'est-à-dire que
justement, il ne faut aussi ou pas oublier que Volkswagen devait faire un statement avec ses véhicules électriques. C'est avec eux au départ que quand même tout a été chamboulé du jour au lendemain. T'sais, en septembre 2015, tout allait bien et du jour au lendemain, la stratégie de tous les constructeurs à travers le monde a été chamboulée à cause du Dieselgate.
Ouais.
Et eux, ils avaient vraiment besoin de faire un statement et de dire de toute façon, même si on perd des milliards, on va devoir débourser 30 milliards de dollars à cause du Dieselgate. On n'a pas le choix, on est obligé d'y aller.
Alors, on va fabriquer des véhicules beaucoup moins polluants. On va faire des Atlas avec des moteurs V6 qui datent de l'âge de pierre. Ça, c'est une réussite.
On est dur.
Ben, on est dur. C'est ça qu'on a fait quand même. Et c'est ça le grand succès de Volkswagen aux États-Unis depuis 5-6 ans quand même. Là.
Et on va faire un modèle Crossport qui est encore plus sportif.
Tout à fait.
Puis on va le vendre plus cher.
Hein? On va le vendre plus cher.
Exact.
Remarque, Mazda.
Comme toutes les marques allemandes.
Remarque, Mazda a joué d'audace récemment en vendant un CX-70 moins pertinent, plus cher qu'un CX-90. Mais ça, écoute, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée.
Voilà.
On va voir si le CX-70 va connaître le succès qu'il mérite, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais on verra pour la suite. Alors, Volkswagen, ben, on a dévoilé ça, mais on souligne aussi que peu de temps après l'arrivée du ID4 2024 qui va se faire d'ici quelques semaines chez les concessionnaires, ben en cours d'année, on va avoir la ID7 et on va avoir le ID Buzz. Et là, on va peut-être débuzzer.
Oui, il y a de fortes chances.
Y a-t-il un nom de véhicule qui se prononce plus mal que ça au Québec?
Ah, c'est...
Pas vrai. Là.
Non, mais... OK, d'accord, mais tu sais, il y a plein de noms, on pourrait en sortir longtemps, là, des noms de véhicules qui font...
Le gars qui achète deux véhicules électriques au Québec, puis qui a un Ariya, puis un ID Buzz, ça va vraiment bien. C'est comme le type qui avait une Buick Lacrosse et une Toyota Avalon dans sa cour. Il est en business. Bon, on passe à un autre appel. On parlera pas de Walmart, mais on va quand même parler de chute de prix, parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on constate chez beaucoup de constructeurs automobiles, des baisses de prix significatives. Et là, ça fait le tour des médias depuis quelques jours. Mmh. Comment ça se fait qu'on voit les prix des véhicules baisser drastiquement? La réponse est tellement simple.
C'est la loi élémentaire de l'économie, la loi de l'offre et de la demande.
Et voilà!
Et que tout marché est cyclique.
Et voilà,
point.
Exactement.
C'est pas plus compliqué
mais
que ça.
Ce qui est vraiment dommage, en tout cas, pour moi, c'est que si tu as acheté, par exemple, un véhicule au plus fort, quand les prix étaient les plus élevés, puis là, tu te retrouves, tu vois, c'est un peu comme Tesla, tu sais, les gens qui ont acheté des Tesla Model 3, puis du jour au lendemain, elle coûte 10 000 $ de moins. Puis c'est la même chose maintenant, mais c'est la même chose across the board, là, tu sais, chez tous les constructeurs ou à peu près.
On parlait la semaine dernière du Ford Mustang Mach-E, ça, c'est un exemple parfait.
C'est ça, exact.
Mais en ce moment, faut aussi constater ceci, c'est qu'il y a beaucoup de grosses aubaines qu'on constate. Là, tu regardes les publicités qu'on te lance sur les réseaux sociaux, en ligne, quand tu lis les nouvelles, tout ça, tu vois passer un paquet de pubs. La plupart concernent des modèles 2023.
Ouais.
Et attends, là, on est au début de mars 2024 et c'est encore rempli de stock de 2023 dans les cours. C'est un sérieux problème parce que les gens ne réalisent pas qu'un 2023 flambant neuf, qui n'a jamais fait un kilomètre, il a déjà perdu 4-5 000 de valeur juste exactement. Parce que l'année modèle n'est pas celle en cours. Là.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, ça va être un problème parce que justement, tu as une dépression. Oui, d'accord, peut-être que le véhicule est plus abordable, ou il est moins cher, ou ton taux de financement...
Ah, tu dis plus le même.
Exactement, mais il est moins cher, ton taux de financement est peut-être moins élevé, sauf que tu as perdu déjà 5 000 ou 10 000, ou peu importe, en dépréciation, parce que c'est un 2023.
Écoutez,
et non
madame,
pas un 2024,
on vous fait sauver 2 800 $ ouais, sur votre CX-30 2023 versus le 2024. C'est une aubaine à ne pas manquer. Oui, mais il vaut 5 000 de moins, fait que finalement, je suis mieux de prendre le 2024. Voilà. C'est ça que les gens ne réalisent pas nécessairement. Et là, en ce moment, on regarde Nissan Rogue, 0% de taux de financement. On ne pouvait pas s'imaginer ça il y a 6 mois à peine, mais il y a encore plein de 2023 dans les cours. Là, les 2024 arrivent avec la nouvelle planche de bord, la nouvelle technologie, le nouveau design de la partie avant, Karine Vanasse qui danse dedans. Mais pendant ce temps-là, tu as des 2023 qui dorment dans les cours, tous plus excitants les uns que les autres, gris, noir ou blanc. Puis il faut que ça sorte, là. Ouais, mais ça sort pas. Fait que 0%, puis des rabais aux concessionnaires. Mais à pareille date, l'année passée, on se battait aux portes pour les acheter. Oui, mais c'est ça qui est fascinant.
Justement, c'est le retour de balancier. Ça, je veux dire, depuis 2020, on se dit, regarde, là, il va y avoir un phénomène, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Il y aura forcément derrière un retour de balancier. Ben, ça y est, c'est mathématique. On est dans le retour de balancier.
C'est ça, mais on compatit vraiment avec les gens qui ont acheté un véhicule en 2021, 2022, qui ont payé le fort prix.
Avec les listes d'attente, avec le bordel pour avoir son véhicule.
Et que justement, ils n'ont pas eu le véhicule qu'ils voulaient.
C'est ça.
Ou c'est avec la bonne couleur ou avec les bons équipements. Ils ont pris ce qui. Parce qu'il y avait besoin d'une auto, là, tout de suite.
Mais je trouve que c'est tellement drastique comme changement en une période si petite. Il faut aussi comprendre comment fonctionne l'industrie. C'est-à-dire que. Tu sais, tout le monde met la faute sur les concessionnaires. Ah, ils nous ont vendu ça ben trop cher, on s'est fait avoir. Ouais. Comprenez comment ça fonctionne. Un concessionnaire achète des véhicules du constructeur. Alors, par exemple, le concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, nommez-les toutes les marques que vous voudrez, là, lui achète ses véhicules de Stellantis Canada. Et là, tu as ce qu'on appelle les DSM, District Sales Manager, qui sont là pour vendre des lots de véhicules à chaque mois, à chaque concessionnaire. Et on s'est fait dire, chez les concessionnaires Chrysler, « Hey, le Ram classique, c'est terminé. » Et comme c'est 40% de tes ventes, ben remplis tes cours, vas-y, parce que tu n'en auras pas l'année prochaine, puis tu veux faire un maximum de volume avec ces véhicules-là, puis on va mettre des promotions dessus, fait que tu vas pouvoir faire des sous, tu vas avoir des ristournes, vas-y à fond, mon Léon. Alors, les concessionnaires, ils se sont garochés là-dessus, ils en ont acheté des lots épouvantables, et là, oh, surprise, ouais, finalement, on a changé d'idée, il va y en avoir des 2024.
Exact.
Mais liquide donc tes 2023, t'en as 230 dans le cours, ça devrait pas être trop compliqué, mais ça serait le fun que t'en prennes des 2024, là, on va te les rentrer dans la gorge. T'sais, c'est comme ça que ça se passe, fait que c'est pas juste le consommateur qui se retrouve dans une situation délicate, parce que le consommateur, il en a acheté un, puis il a peut-être mangé 6, 7, 8 000 $ en dépréciation sur un véhicule parce qu'il ne l'a pas acheté au bon mois. Mais le concessionnaire, et attends, là, je veux juste qu'on comprenne bien, là, je ne les prends pas en pitié, là, loin de là. Mais le concessionnaire aussi a des enjeux.
Ça fait partie de la réalité. Voilà. Tout à fait, absolument.
Alors, lui aussi a des enjeux financiers et c'est les stratégies des constructeurs automobiles qui sont défaillantes et il y en a plusieurs qui ont eu de mauvais jugements, là, visiblement.
Mais ce qui va se passer aussi, je pense, c'est que là, maintenant, évidemment, il y a plus d'inventaire, il faut les liquider, ces choses-là.
Ouais.
Et là, ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'à un certain moment donné, il y a peut-être une marque qui va se dire « Nous, maintenant, on veut augmenter nos parts de marché au Canada.
Ouais. »
Ils vont devenir plus agressifs encore. Oui. Et là, ça va forcer les autres.
C'est exactement ça. Alors, et ça fait partie des trucs cycliques aussi.
Exactement,
tu as tout à fait raison.
Parce que quand il y a une pénurie de véhicules, ben, tu vends le fort prix. Tout ça. Quand il y en a plus, ben là, comment est-ce que tu t'arranges pour que toi, ta part du gâteau soit plus large ou plus grosse, ben là, il faut que tu trouves des astuces, il faut que tu trouves des mesures incitatives là, pour amener le client chez toi, aller piquer des clients chez d'autres marques.
Ouais, absolument.
Et donc, une fois que ça, cette dynamique-là va entrer en ligne de compte...
Tout le monde va embarquer.
Voilà.
Ça va prendre 5-6 mois maximum, tout le monde va embarquer. Et c'est arrivé plusieurs fois comme ça avant, au lendemain du septembre 2001, tout le monde a dit « qu'est-ce qui se passe ?» poum, on commence. Je pense que c'était GM qui avait démarré le premier, qui avait mis les gros rabais sur le capot. Tout le monde avait embarqué dans la semaine qui suivait.
Exact.
Et puis, 2002-2003, là, il y avait des affaires fantastiques.
C'est fascinant, tu te dis, les concessionnaires vont apprendre de leurs erreurs. Tu sais, quand la pandémie est arrivée, et que là, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de stock, on n'avait plus à supporter de stock financièrement parlant. C'est un game changer pour les concessionnaires. On vend au plein prix. Là, on s'est dit, les concessionnaires commanderont plus de véhicules, puis non, mais on va toujours garder comme ça. Mais tu vois, non, c'est revenu comme c'était avant la pandémie.
Parce que justement, les constructeurs poussent aussi derrière. Eux, il faut qu'ils fassent rouler les usines. Voilà. Il y a un exemple qui est incroyable. Dans les années 70, Chrysler avait des banques de véhicules. Ils faisaient rouler les usines au tapis, tout le temps, à fond. Et puis à la fin du mois, ils mettaient les vendeurs sur le téléphone et ils pressuraient les concessionnaires comme des sauvages pour récupérer des voitures dont ils ne voulaient pas.
Ouais.
Et c'était un système complètement tordu. Tout le monde perdait de l'argent. Demande-toi pourquoi Chrysler a failli disparaître à cette époque-là.
Ben, on se souvient des images qu'on a vues.
Tu ne te souviens peut-être pas de ce type-là. Jules Lacoste,
qui
était directeur de la zone ici. Il me racontait des histoires dans le temps de la Grande Furie.
Ouais. Okay.
Là, il allait voir les concessionnaires, puis il lui dit « Hugues, t'en prends 12. »
C'est
puis
ça.
Puis là, Hugues disait « Ah voyons donc, je ne suis pas capable de me débarrasser de 12. » C'est toi qui choisis les couleurs ou c'est moi qui choisis les couleurs?
C'est ça que tu avais le choix, exactement.
Ouais. Et il tordait le bras littéralement.
Ah non, mais c'était vraiment, c'était violent là. C'était comme genre, regarde.
Ben,
il fallait faire rouler les usines à tout prix. Puis j'ai l'impression que là, c'est le même problème. Là, il y a eu d'énormes investissements, spécialement dans la voiture électrique. Il faut faire rouler les usines.
Ouais. Alors, c'est cyclique et c'est drôle, mais on revient à un marché comme celui-là. Alors, oui, mesdames et messieurs, vous avez le pouvoir de négocier le
vous
prix de
recommencez
votre...
à
c'est
avoir
ça,
le
vous
pouvoir.
Recommencez à avoir le pouvoir de négocier votre voiture neuve et vous avez une monnaie d'échange qui est intéressante, votre véhicule d'occasion qui, lui, vaut encore des sous.
Ouais.
Parce que ça a un peu baissé dans certains segments.
Mais là, ça va se réajuster
tout ce
aussi.
Qui est
là.
Très abordable, c'est un peu drôle à dire, mais tous les véhicules d'entrée de gamme, les voitures compactes, sous-compactes, les petits VUS, dans l'usager, ça vaut encore une fortune.
Effectivement.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Le guide de l'auto.
Hugues, cette semaine, tu as choisi de nous parler d'une voiture qui a fait rêver pendant longtemps et qui est devenu un objet de collection véritable. À
Absolument.
Un certain moment donné, ça stagnait un peu. C'était des voitures qui étaient un peu sans intérêt pour les amateurs de sportives, mais là, c'est redevenu extrêmement convoité. On parle de la Dodge Viper, qui est une voiture de tous les excès. Là.
Oui.
Et Gabriel, toi, tu avais assisté en plus au lancement de la première voiture. Alors ça, c'est quand même intéressant. Alors, Hugues, raconte-moi un peu les débuts de l'histoire de cette voiture-là, parce qu'on part de loin et il y a des origines intéressantes.
Oh, oui, tout à fait. En 92, Chrysler est connu pour le flot continu de dérivés des Model K et pour ses mini-fourgonnettes. Et là, tout d'un coup, elle arrive avec un véhicule qui promet le zéro à la prison en 4 secondes. Donc, on part de loin et on va effectivement parler des origines et de pourquoi il y a eu ce changement radical.
Bon, on peut commencer par la situation du constructeur Chrysler à la fin des années 80. C'était pas rose, là.
C'était pas rose en matière de produits, mais par contre, la marque était profitable. Et Liacocca, qui était son PDG, avait déjà sauvé la marque en 79. Il est indéboulonnable, et ça, c'est important. Mais sa stratégie commence à être sérieusement contestée en interne. Et puis, ses goûts en matière de voitures sont arrêtés aux années 70. Et le problème, c'est qu'il s'est lancé dans une frénésie d'achat en tout genre. Il a acheté des avions Gulfstream, Electrospace System, Finance America, 4 compagnies de location et Lamborghini en 1987.
Quelle excellente idée!
sans compter, et la bonne idée, le rachat d'AMC en 87, essentiellement pour récupérer Jeep.
Ouais.
Et là, par contre, ça va s'avérer fructueux. Mais le problème, c'est que l'argent qui sert à faire toutes ces acquisitions ne sert pas à développer de nouveaux produits. Et effectivement, ça se ressent.
Bon, là, évidemment, tu as du monde qui a fait bouger les choses là, chez Chrysler. Ça a permis justement de voir un nouvel essor chez ce constructeur-là.
Ouais, en interne, là, il y a des gens qui commencent à dire que ça ne marche pas. Au design, en fait, la Viper a quatre parrains. Au design, il y a Tom Gale, qui avait déjà commencé à dépoussiérer l'image de Chrysler en 87 avec le concept Portofino, et dont les idées de design serviront au futur Berliner LH en 93,
Intrépide.
Qui vont sauver la marque.
Ouais.
À l'ingénierie, il y a François Castin. C'est un Français qui a commencé sa carrière d'ingénieur chez Gordini et qui a travaillé sur les programmes de compétition de Renault en Formule 1 et aux 24 heures du Mans. Et fin 79, il est nommé directeur technique d'AMC. À ce moment-là, Renault est devenu actionnaire majoritaire d'AMC. Et c'est lui qui va pousser le concept des team platform qui va permettre à Chrysler, dans les années fin des années 80, début des années 90, d'être plus agile et efficace. La caution sportive va venir de Carroll Shelby. Et Carroll Shelby, quand il a mis fin à la production des Mustangs en 69, il a connu une petite traversée du désert dans le monde de l'automobile.
Ouais.
Et il a été rappelé par Iacocca en 82 pour mettre un petit peu d'énergie dans la gamme Dodge parce qu'il y en avait besoin.
On se souvient de la Dodge Omni GLH.
Et GLHS.
Ouais, goes like hell some more.
Exactement. Ouais. Et enfin, le dernier des quatre mousquetaires, c'est Bob Lutz. Lui, il est né en Suisse. Il est passé par les Marines où il a appris à piloter des jets de combat. Il a travaillé chez Opel, BMW, Ford et est arrivé chez Chrysler en 86. Lui, il a une vision instinctive de l'automobile et il déteste le design de comité.
Bon, et c'est lui qui a essentiellement l'idée de départ de la Viper et probablement qu'il a dû voir du potentiel dans cette équipe-là qui était capable de développer le produit pour en amener, pour en faire un produit intéressant.
Exactement. Et en fait, on est au printemps 88 et Lutz conduit sa réplique d'AC Cobra Mark IV sur les petites routes du Michigan. Et il se dit que la Cobra a quand même laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'auto et que c'est quand même la voiture la plus reproduite au monde aujourd'hui. Et il se dit, mais pourquoi ne pas en faire une réinterprétation moderne ? Après sa balade, il va voir Tom Gale, il lui dit, essaye quelque chose. Tom Gale se met au boulot. Son designer Craig Durfee réalise les dessins pour le concept qui doit être présenté au Salon de Détroit 89. Alors les premiers croquis ne plaisent pas trop à Lutz, mais Lutz fait confiance à Tom Gale et lui dit, vas-y, on y va. Et quand il verra la première maquette, il va complètement tomber en amour. Côté performance, Chrysler n'a pas de moteur qui va faire l'affaire, mais ils sont en développement d'un nouveau V10 qui servira aux Ram en 94. Donc là, ils disent, on a déjà quelque chose.
C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que le V10 dans le Ram est arrivé pratiquement 3 ans plus tard.
C'est ça.
Et pourtant, il était destiné à ce véhicule-là.
Il était déjà destiné là. Il savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Donc, il se disait, au moins, on a quelque chose qui va pouvoir faire l'affaire plutôt que les bons gros vieux V8 qu'ils avaient en stock à ce moment-là. Les choses avancent bon train. C'est Boyd Connigdon qui charge la fabrication du châssis.
Wow.
Rausch qui fabrique le moteur initialement en trop son nom de V8 et en les ressoudant pour faire un V10. Parce qu'en fait, le rôle de ce moteur pour le concept de Détroit, c'est juste de faire du bruit dans le salon et de faire avancer la voiture sur à peu près 20 mètres. Donc, pas besoin
ça
que ça soit...
Ça a fonctionné, ça.
Ça a fonctionné, il n'y a pas de problème.
Mais ça a été un stunt extraordinaire.
Ah,
à Détroit, ça a été un stunt extraordinaire. Même moi, qui étais tout jeune à cette époque-là, moi, je me souviens d'avoir lu des magazines, de regarder cette voiture-là, puis de faire, OK, on a une première voiture américaine qui est de classe mondiale.
Là, on change quelque chose.
Ouais.
Et alors, reste à trouver le nom de l'engin.
Ouais.
Chrysler ne peut pas utiliser Cobra, évidemment, puisque c'est une marque déposée par Ford, mais Lutz veut un nom de serpent pour bien montrer qu'il y a quelque chose de lié, et tout le monde se met d'accord sur Viper.
Ouais. Ça a fonctionné, là, ça a été un oui instantané. Bon, on a donné le go à l'approbation, à la production de cette voiture-là suite au dévoilement de la voiture en 89 au Salon de l'Auto de Détroit, mais il fallait le faire en un temps record.
Oui, et en fait, parce que justement ça a été une réaction dingue au Salon de Détroit, que Chrysler a décidé de s'y mettre. À ce moment-là, ils ont reçu des lettres de demande, ils ont reçu des chèques, il y a même des gens qui ont envoyé de l'argent liquide suite au dévoilement. Donc là, 2-3 mois après, en mars 89, Lutz dit, OK, on y va, on démarre le développement. Et lui, il ne voit pas juste une voiture à l'eau, et bien sûr ça va être une voiture à l'eau, mais il voit aussi une possibilité de booster le moral en interne et aussi de commencer à développer des projets en team platform, parce que ils étaient dans cette transition là, ils se sont dit c'est le type de véhicule petite série qui va nous permettre de développer de nouvelles méthodes d'ingénierie. Donc l'ingénieur en chef, François Castin, nomme Roy Schauberg comme le chef de projet. Schauberg est un ancien de GM qui a travaillé sur la Corvette sous la direction du célèbre Zora Arkus Dontov,
okay.
Et est rentré chez Chrysler en 85. Alors, fait marrant, Schauberg ne demande que des volontaires pour travailler sur la Viper. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir beaucoup plus de volontaires pour travailler sur le projet qu'ils n'en avaient besoin. Tout le monde voulait travailler sur ce véhicule-là.
Il était tanné de travailler sur des Arias et des Ryan, c'est peut-être ça.
Et des minivans.
C'est ça. Bon, l'équipe est installée dans un ancien centre d'ingénierie d'AMC.
Ouais.
Et le local est baptisé le Snake Pit. Wow. Et comme tout le monde est sous le même toit, bah, au lieu de faire des meetings interminables, Schauberg, à un moment, quand lui, il a un problème, il sonne une cloche, tout le monde s'arrête, on va régler le problème tous ensemble. Et puis voilà. La consigne, c'est de livrer un véhicule pour Salon de Détroit 92. C'est dans 33 mois. Faire un nouveau développement en 33 mois, c'est pas rien.
Surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, on peut accélérer le processus, et encore, mais à cette époque-là. Mais Chrysler a été bon là-dedans. Je me souviens, le développement de la Néon s'était fait très vite.
Team Platform.
Un peu trop d'ailleurs.
Team Platform, justement, c'était ça le
C'est exactement ça. Bon, évidemment, c'est Carol Shelby qui est rentré en ligne de compte là-dedans, puis qui a fait en sorte que ça se puisse aussi.
Voilà. Carol Shelby. Eh ben son rôle, c'est de charmer Iacocca, qui est le PDG de Chrysler, parce que Iacocca n'est pas chaud pour acheter. Lui, pour acheter des compagnies d'avions, il n'y a pas de problème. Développer la Viper, c'est pas son truc, parce que c'est pas lui qui a eu l'idée.
Parce que dans les constructeurs automobiles américains, il faut savoir qu'il n'y a aucun ego de chez personne.
Non.
Ça existe
absolument
pas.
On pourrait faire une émission juste là-dessus.
Voilà, exactement.
Ouais. Plusieurs émissions.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il faut attendre mai 90. Pour que Iacocca finalement approuve le projet grâce à Shelby qui lui dit bon, il faut y aller. Et en fait, petite anecdote, Shelby lui voulait un véhicule un peu plus petit avec un moteur V8. Et Tom Gale, pour disons le satisfaire, réalisera un concept à échelle réduite, 9 dixièmes, avec un V8, des lignes un petit peu simplifiées qui s'appellera Pacifica. Mais effectivement, à la fin, la Pacifica disparaîtra et Celotz aura le dernier mot.
On a quand même gardé le nom dans le catalogue, mais ça n'a pas servi à ça. Bon, évidemment, pour que la Viper soit une voiture performante, ben, ça prenait des éléments intéressants. Et on est allé faire affaire avec des entreprises externes pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se faire. Là.
Et que ça puisse se faire vite, parce que justement, on le rappelle, ils n'ont que 33 mois. Donc, pour le moteur, ben, c'est Lamborghini qui met à contribution pour réaliser une version V10 en aluminium. Le passage à l'aluminium va permettre de gagner environ 70 kg. Et en même temps, bah, les Italiens en profiteront pour optimiser le refroidissement, le vilebrequin et le système d'injection afin que ça marche mieux. Pour la boîte de vitesse, Chrysler pense utiliser initialement une boîte 5 qu'ils avaient en interne qui allait être utilisée avec le V10 en 94. Puis finalement, ils se tournent vers Getrag pour aller chercher une boîte 6. Mais Getrag demande plusieurs millions d'avance. Et sur un petit projet comme ça, ça peut pas marcher. Donc finalement, Chrysler va chercher une BorgWarner T56 développée pour GM. Par contre, le développement du châssis tubulaire se fait en interne et la carrosserie est réalisée en RTM, Resin Transfer Molding, une nouvelle technologie chez Chrysler qui posera son lot de problèmes spécialement au début.
Bon, évidemment que cette voiture-là a été finalement lancée à la date prévue. Et là, ça a été un essor extraordinaire. Gabriel, je suis curieux de t'entendre d'ailleurs sur le lancement de cette voiture-là. Tu as participé à ça.
C'était assez surréaliste parce que tu te promenais en Californie avec cette auto-là et partout où tu allais, mais vraiment partout, les regards, là, tout le monde regardait cette voiture, les gens arrêtaient, posaient des questions. Ils savaient c'était quoi, là, mais ils voulaient savoir, ils voulaient regarder à l'intérieur. Tout. C'était hallucinant. Puis évidemment, le danger pour nous, c'était quand tu sortais de l'auto, de ne pas te brûler les mollets sur les tuyaux d'échappement, parce que les tuyaux d'échappement, les tubulures d'échappement étaient à l'extérieur du véhicule.
Une signature de la Cobra, là, essentiellement.
Près des bas de caisse, tout ça.
Ouais.
Puis je me souviens, ce moteur, le couple qu'il y avait là-dedans, c'était hallucinant. Là, il fallait faire très attention avec l'accélérateur. Mais surtout aussi, c'est qu'en sixième vitesse, tu roulais à vitesse de croisière sur l'autoroute, puis le moteur...
Il tournait à 1000 tours.
Là. Même pas. Ouais, c'est ouais. Quasiment en bas de 1000 tours. C'était comme une locomotive qui avance tour, 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 comme ça. Ouais. Mais c'était vraiment tout un filet.
Comment s'en est pris, Hugues, pour la commercialisation de cette voiture-là? Parce que là, évidemment, les gens devaient tirer la couverte chacun de leur côté pour avoir des unités. Là, ça a pas été fabriqué en super grande série. Là.
Au début, la production, elle tourne à 3 autos par jour.
C'est rien.
Pas beaucoup. La voiture est vendue 50 000 US, ce qui est
pas si cher.
C'est pas très cher. Mais bon, faut dire que pour ce prix-là, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de coussin gonflable, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de boîte d'automatique, il n'y a même pas de poignée de porte, il n'y a même pas de vitre.
Non.
Les voitures sont vendues 50 000, mais la demande, comme tu le disais, est tellement forte qu'il y a certains concessionnaires qui vont les vendre jusqu'à 200 000 $.
Exact. À l'époque.
À l'époque. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est souvent les mêmes concessionnaires qui avaient dit à Iacocca, faut arrêter ce projet-là, faut mettre votre argent sur le RAM, nous on n'en veut pas de ces Vipers-là, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché, ça a tellement pas marché qu'il y a eu 5 générations et que la voiture a été vendue jusqu'en 2017.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est quand même pas si mal pour un petit concept imaginé sur le bord d'une route.
Et effectivement, voilà. Que ces voitures-là aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs qui ont terminé leur carrière autour d'un poteau.
Ouais.
C'était une voiture qu'il fallait apprendre à apprivoiser.
Elle portait bien son
très
nom.
Très délicate.
Elle portait bien son nom parce que...
on a eu un collègue canadien qui est décédé.
Ouais. Fin 2001, je me souviens très bien. Ouais.
C'est une bretelle d'accès à l'autoroute. Là, qui
les pneus étaient froids.
Ouais, exactement. Fait que c'est une voiture qui demandait beaucoup de respect.
Ouais.
Puis qui, il fallait que tu fasses attention. Là. C'était vraiment... comme une vipère qui pouvait...
Tout le monde le savait. Moi, j'avais fait un long lead en 2003 où il y avait des SRT6 et des SRT4, des néons SRT4. Et on était sur une piste d'essai sur le Proving Ground. Et les SRT6 et les SRT4, là, tout le monde lâchait l'embrayage à 4000 tours. Ça spinait, les pneus chauffaient. Bah, et puis, quand tu montais dans la Viper, tout le monde était comme...
Oui, c'est ça.
On change la vitesse à 1500 tours. On y va tranquille. Tout le monde les avait bien serrés parce qu'effectivement, ça faisait même pas 2 ans que le collègue dont tu parlais était mort et tout le monde l'avait en tête. Et,
c'est ça.
Voiture qui rend humble.
Je me souviens d'un tour de piste à Tremblant que j'ai fait en tant que passager dans une Viper. C'est Claude Bourbonnais qui conduisait cette voiture-là sur la pluie et était capable d'avoir une maîtrise incroyable malgré le fait qu'il n'y avait aucune traction et beaucoup trop de couple. Et après ce tour de piste-là, ils ont dit, on rentre au puits et on laisse les voitures là-bas parce que c'est rendu insoutenable. Et cette journée-là, on avait conduit des RAM avec des boîtes 6 vitesses V10, des RAM SRT10 qu'on avait fait aussi. Il y avait un paquet de produits. Là. Mais la Viper, c'était une voiture à apprivoiser vraiment. Puis là, je te parle d'une génération plus récente que la première.
Alors, la première, c'était une sauvage. Absolue.
C'est aussi une voiture qui a eu plusieurs évolutions. On pense à la ACR, notamment, qui était encore plus performante avec une aérodynamique encore plus étudiée que la Viper de base, si je peux m'exprimer ainsi. Là, fait que ça a été vraiment un beau filon. Et évidemment, la Viper aussi, ça a roulé en course. Ça a roulé en course
d'endurance. Très, très beau palmarès.
Un très bon palmarès, exact. Alors, ça a été tout un succès. Puis je me souviens aussi, pour peut-être clore là-dessus, t'sais, on parlait de Chrysler et de leur concept flyer, là. Le Dodge Tomahawk. Ça, c'était une moto. Une moto avec le moteur V10 de la Viper. Évidemment, ça n'a jamais vu le jour. C'était juste un stunt pour le salon de l'auto.
En fait,
tout le monde se souvient de ça.
Cette moto-là, le châssis, c'était le moteur.
Exact.
Les roues étaient posées et moi, j'ai eu la chance de poser mes fesses dessus. C'est très, très, très... Même à l'arrêt, c'est très intimidant.
Depuis ce temps-là que tu as une hernie, hein?
Exactement.
Merci, Hugues.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage. Ni accrochage.
Les gars, bilan des constructeurs aujourd'hui, on va parler de Polestar, qui est une marque qui est débarquée sur le marché un peu curieusement. On avait l'impression que c'était un pendant direct de Volvo, mais on a tout fait pour nous faire croire que ça n'en était pas une, alors que c'était littéralement ça. Et là, ben, 2 ans et demi, 3 ans plus tard, la situation nous semble un peu précaire. Qu'est-ce qui explique ça?
Ben écoute, moi, je pense que du côté de Polestar, il faut se souvenir qu'au départ, bon, la première voiture qu'ils ont commercialisée, c'était la Polestar 1, qui n'était pas une voiture électrique, qui était une voiture hybride.
Ouais.
Et ensuite, ils sont arrivés avec la Polestar 2, et ça, c'était la voiture qui allait les mettre sur la carte, comme on dit. Production chinoise. Quand même, la technologie de Volvo sont allés servir là, chez Volvo pour la plateforme.
Mais il faut
pour,
se souvenir qu'initialement, Polestar, c'était oui, le exact. Tuner de Volvo.
C'était le AMG de, donc,
quand,
de
quand
Volvo.
Quand on dit qu'il n'y a pas de lien avec Volvo, excusez. Mais...
Non, mais non, mais c'est ça. Mais
tu regardes à l'heure actuelle, la Polestar 2 puis le Volvo XC40, c'est la même chose. Le XC40 électrique, c'est la même chose. Le volant, c'est un volant Volvo. Il y a juste le sigle.
C'est une Volvo.
C'est une Volvo à part entière. Donc, mais établir une... Tu sais, bon, Volvo, tout le monde sait c'est quoi. Polestar, là, c'est comme... faut que tu commences à expliquer c'est quoi aux gens. Puis je me souviens d'une fois, j'en avais une à l'essai, puis mon voisin me dit, c'est quoi ça, Polestar? J'explique Volvo, ça.
Ouais.
Mais tu sais, déjà, là, pour le commun des mortels, c'est comme, ça sort de où, c'est quoi?
T'sais. Mais pourquoi ils appellent pas ça une Volvo?
Exactement.
C'est ça.
Fait qu'il y a ça. Et puis... écoute, c'est pas une mauvaise voiture. Elle a gagné des prix et tout. Et tout. Et c'est une belle exécution du produit. Le problème, c'est justement, c'est de convaincre un client qui ne connaît pas ça, qui ne sait pas c'est quoi, d'embarquer là-dedans littéralement. Puis,
mais on aurait juste plus de succès si on avait appelé ça Volvo.
Oui, selon moi, oui, mais ça, c'est un débat pour un autre jour.
Ouais.
C'est très chinois de créer des marques, des sous-marques, des surmarques, des machins. Chine, ça marche, il n'y a pas de problème.
En Chine, il y a 200 marques de voitures chinoises.
Il en sort pratiquement une tous les jours en ce moment. J'exagère un petit peu, mais... Mais je pense que c'est pas la même mentalité,
non,
qu'effectivement ils se sont dit on va faire la même chose, ça marche chez nous, il y a pas de problème.
Mais en fait, c'est
stratégie.
J'ai aussi trouvé que c'était tiré dans le pied parce que tu lances une voiture qui s'appelle une Polestar 2, qui est une voiture, alors qu'on sait qu'actuellement les voitures sont en déclin. Et l'année d'après, tu débarques avec un XC40 Volvo qui lui est un VUS et qui vient carrément damer le pion à la Polestar 2 que tu as besoin de faire connaître, alors que l'XC40 est déjà établi.
Ouais.
Alors, c'est un peu curieux.
Puis, et quand on regarde du côté des ventes, là, je pense que tu as sorti des chiffres de vente aux États-Unis, parce qu'au Canada, ils ne communiquent pas.
Ils ne communiquent jamais les chiffres de vente au Canada. Évidemment, on a su que Polestar avait vendu 60 000 voitures à Hertz aux États-Unis, mais... il y a seulement 10 350 voitures qui ont été livrées à des clients, donc à des
particuliers.
À des particuliers.
Voilà,
alors, c'est quoi la proportion de ventes que tu fais aux États-Unis? Et là, on le sait, ce qui est arrivé tout récemment, c'est qu'il y a un paquet de ces voitures Hertz-là qui se sont retrouvées dans des encans, qui n'ont pas trouvé preneur avec des mises maximisées à 30, 31, 32 000, alors que la voiture se vend 70. Ouch!
Oui, mais c'est parce qu'aux États-Unis... en dehors de Tesla pour la voiture électrique, point de salut. Le réseau de recharge n'est pas assez développé. Puis si toi, tu t'en vas en vacances avec ta famille, est-ce que tu veux louer une voiture électrique à Denver pour aller rouler dans les Rocheuses quand tu ne sais pas où est-ce que tu vas la recharger? C'est clair que tu ne veux pas louer ça. Tu veux louer autre chose. Tu veux louer un VUS à essence, whatever. T'sais, tu veux faire la Californie, c'est la même chose. Tu veux pas te soucier de comment est-ce que je vais faire pour recharger cette voiture.
Non, dans la catégorie des mauvaises idées, ça, c'en était une pas pire.
Et donc, mais ça vient plomber le marché, ça vient plomber la valeur de revente de tous les véhicules, la valeur résiduelle aussi de tous ces véhicules-là. Et c'est là que ça pose problème.
Et je dirais même que, bon, Polestar est arrivé avec la Polestar 2 en 2021, ça fait maintenant plus de 3 ans. Puis quand tu regardes, par exemple, une marque comme Genesis, on est d'abord arrivé avec des voitures, puis on s'interrogeait sur la raison du pourquoi on est arrivé avec des berlines plutôt que des VUS connaissant le marché actuel. Quand tu connais le marché coréen, tu comprends pourquoi.
C'est ça.
Mais rapidement, on est revenu à la charge avec des VUS.
Ouais.
Sauf que là, tu regardes ta montre, ça fait 3 ans passés qu'on vend un modèle, la Polestar 2, et le Polestar 3, le Polestar 4, ça se fait toujours attendre. On sait qu'on va assister au dévoilement très prochainement, mais il est tard, là. Qu'est-ce qui se passe là chez Polestar, même chez Volvo, parce qu'on a retardé l'arrivée du EX90,
Et du EX30 aussi.
EX30 aussi, mais chez Polestar, il est plus urgent qu'on débarque avec ça. Et 3 ans plus tard, il y a toujours un seul point de vente au Québec pour la division Polestar, là. C'est, et ironiquement, c'est le gars qui vend des Volvo à Laval. T'sais, bon, t'sais, qui plus est. Fait que là, ils sont en train de finir la construction de la concession Polestar au Québec sur la voie de service de la 440. Mais j'ai l'impression qu'on a attendu trop longtemps et que les stratèges de la marque... On a l'impression qu'ils sont partis en vacances pendant un an puis sont revenus puis on a fait « Oups, ça a changé ».
Mais ceci étant dit, quand on voyait le salon du véhicule électrique à Montréal il y a 2 ans, là, ouais. Tu te souviens-toi, là, où il n'y avait pas d'offres sur le marché. Mm. Polestar, c'était une des seules voitures que tu pouvais acheter là, qui était disponible.
Et amusante à conduire.
Ça ou une Model 3.
Puis, ouais. Mais comme tu dis, c'était il y a 2 ans et en 2 ans, les choses ont dramatiquement changé.
Et voilà.
C'est ça. Alors là, on n'a pas de chiffre de vente sur le marché canadien. Bon, je pense qu'on est capable de deviner que c'est au Québec et en Colombie-Britannique qu'on en a vendu le plus. Mais il y a actuellement beaucoup de propriétaires de Polestar 2 qui sont pas très heureux de constater la très forte dépréciation de ces voitures-là, causée justement par cette mauvaise décision d'avoir garoché des dizaines de milliers d'unités dans des parcs de location. Juste pour faire du volume. Mmh. Puis ici au Québec, ben, tu as des entreprises comme Louélec et comme Hertz qui ont loué des voitures à des gens qui vont faire, par exemple, du Uber, des trucs comme ça, pour passer de ces voitures-là, il y en a trop sur le marché. Vous en voulez une demain matin, vous l'avez, là. Puis malheureusement, ben, il n'y a pas de formule de bas prix ou de taux d'intérêt intéressant. C'est pas encore le cas parce que c'est une entreprise qui a un peu une philosophie à la Polestar ou à la Tesla, pardon. Alors, j'ai hâte de voir comment on va s'ajuster. Mais quand on va avoir une gamme complète, on a besoin d'être un petit peu plus agressif et de pas répéter les erreurs qu'on a faites ces dernières années, là.
Ouais, ça, c'est une histoire à suivre.
Une histoire à suivre. Et ce qui est très drôle, c'est que pour terminer, la Polestar 1 dont tu faisais mention, c'est un véhicule qui découle du Concept Coupe de 2013 qui avait été...
De Volvo.
et tu sais qu'il n'y en a eu seulement que 10 pour le marché canadien.
Oui, exact.
Et il y en a 2 qui ne sont toujours pas vendus.
Écoute, moi, j'ai été au lancement de la marque Polestar à Shanghai quand ils ont dévoilé la Polestar 1 pour la première fois. C'était un événement énorme.
Design magnifique, là.
Oui, bon. Puis tout. Puis c'était le coup d'envoi et tout. Puis c'était dans le temps aussi où ils nous parlaient du modèle d'affaires où il n'y aurait pas de concessionnaire, que c'était de vendre direct aux clients. Puis évidemment, aux États-Unis, ça ne marche pas à cause de la législation et tout ça. Mais tu sais, tu voyais qu'ils mettaient beaucoup d'argent sur ce projet-là. et pour voir jusqu'à quel point ça évolue et ils ont mais c'est difficile, c'est difficile.
On pédale dans la semoule, c'est très 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 difficile. Alors bonne chance à tous les à toutes les nouvelles marques qui vont débarquer chez nous. VinFast qui vient d'arriver, Fisker qui commence à distribuer des véhicules chez nous aussi. Très hâte de voir l'évolution de tout ça. On parlait de Polestar et de sa forte dépréciation. T'es allé, Gabriel, conduire une voiture qui, elle aussi, a une pas pire dépréciation, mais qui est un petit peu plus amusante à conduire. La McLaren 750S, que tu payes 400 000 et qui vaut 200 2 ans après.
Oui, quoi que ça, de ce côté-là, je pense qu'ils ont corrigé le tir un petit peu.
Ben, ils ont dit ça il y a 2 ans.
Ouais. Okay. On s'en reparlera effectivement dans 2 ans, c'est tout ça. À fait, t'as raison. Mais écoute, c'est une... t'as conduit la 720S, j'ai conduit la 720S. Là, avec la 750S, t'es une coche au-dessus.
Ben, c'est 30 chevaux de plus, 30 kilos de moins.
Exactement,
essentiellement, là.
À peu près. Mais surtout, c'est une voiture, tu la regardes, là, puis c'est un peu le jeu des 7 erreurs, à savoir est-ce qu'elle est vraiment différente de la 720S.
Ouais.
30% des composants qui sont nouveaux sur cette voiture-là, ils ont beaucoup travaillé l'aérodynamique. Ils ont surtout beaucoup travaillé le poids. T'sais, ils ont des nouvelles jantes, ils ont sauvé 18 kilos. Le combiné d'instruments, ils ont sauvé 1,8 kilos. Le vitrage de la voiture est plus mince, ils ont sauvé 1,6 kilos. T'sais, cette voiture-là, là, en ordre de marche, c'est 1389 kilos. C'est moins lourd qu'une Volkswagen GTI.
Oui.
Puis c'est à 740 chevaux.
Ouais, c'est ça.
C'est hallucinant. Là. Le rapport poids-puissance dans ce créneau-là est imbattable. C'est plus puissant et moins lourd, ce rapport-là, et meilleur que sur une Ferrari, par exemple.
Ouais.
Et puis, c'est vraiment une... évidemment, V8 biturbo de 4 litres, ça ne change pas. Structure monocoque, ça ne change pas non plus. Mais tout, c'est du fine-tuning là, qu'ils ont fait, là, oh, ouais. du tweaking, là, comme on dit en anglais. Et ça donne une voiture qui est surtout, un nouvel échappement surtout, qui est beaucoup plus sonore. C'est avant le
700. Ah, mais le son de ces voitures-là, c'est quand même...
Maintenant, là,
l'expérience de conduite est quelque chose. Ah, là, ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Mais le gros problème chez McLaren, ça demeure la fiabilité et la dépréciation.
Ouais.
Il y a beaucoup de propriétaires de McLaren à qui j'ai pu parler qui m'ont dit « Écoute, c'est un beau jouet, mais... » une fois sur deux, quand je vais en profiter, non, ça arrive pas. Tu sais, ça marche pas.
Faire l'entretien de ces machins-là. Là,
c'est... Ben oui, mais ouais, ça, mais c'est comme n'importe quelle voiture exotique.
Ouais, ouais. Non, quand on est rendu dans ce... Quand on est rendu dans ce lot-là, mais tu sais, prix de base pour le coupé, 363 700 $. Le cabriolet, parce qu'il y a une version cabriolet, ouais. évidemment, c'est 392 700 $. Là-dessus, il y a aussi une liste d'options longues comme le bras, des sièges en carbone, des freins en carbone, des pneus trophéo air qui sont presque des slicks.
Alors, là, juste pour vous donner une idée, la taxe de luxe représente une Outback loadée au bouchon. C'est à peu près ça. Là.
Mais ce que je te dirais, et c'est ça peut-être la particularité des McLaren par rapport à des Lamborghini puis des Ferrari, parce que j'en ai conduit aussi de ces voitures-là, c'est que c'est probablement la voiture exotique qui est la plus confortable au quotidien pour nous, pour nos routes.
Qui ne donne pas l'impression d'être capricieuse.
Exact. Mais surtout, c'est leur fameux système de suspension là, de Proactive Chassis Control, de troisième génération maintenant, avec des algorithmes plus performants. Mais les amortisseurs sont liés entre eux. Donc, tu n'as pas des barres anti-roulis conventionnelles sur ce véhicule-là. Ça te permet un meilleur débattement de suspension. Puis en mode confort, là, c'est surprenant.
Ouais.
Okay, évidemment, c'est pas une Rolls-Royce, c'est pas... c'est quand même, ça reste une voiture exotique, mais c'est envisageable de conduire ça sur nos routes au Québec, plus que... Tu te fais moins brasser, mettons. Tu sais, quand t'es en mode confort, là, tu te fais moins brasser là-dedans que dans une Lamborghini ou une Ferrari.
Et pour avoir conduit ça, ces voitures-là, sur les routes du Québec... et avoir parfois frappé des nids de poule, comme ça arrive, le coup que ça donne dans le châssis, c'est là que tu réalises à quel point c'est solide.
Ah,
ça craque pas, c'est
structure
incroyable.
Structure monocoque en fibre de carbone, il n'y a rien de mieux que ça. Là, c'est rigide.
C'est pas toi qui manges le coup. C'est qu'on a réussi à développer une structure qui donne l'impression d'amortir le choc à ta place, mais en étant d'une étanchéité, d'une solidité incroyable. Ça, c'est génial.
Il y a d'autres éléments aussi. La visibilité sur ces voitures-là, vers l'avant ou sur les côtés, c'est génial. Ouais. C'est vraiment bien fait. Mais c'est surtout ça. C'est la dualité de la voiture. Tu peux conduire ça. C'est une sportive de performance qui peut être vraiment furieuse sur la piste, mais en même temps, qui se conduit comme une Honda Civic dans la circulation. Simple que ça. C'est pas quelque chose de compliqué. Tu mets ça en mode automatique et tout. Mais c'est suspension en mode confort, là, motorisation en mode confort, puis tu t'en vas là comme ça. Là, puis c'est
juste que pour l'entretien des freins, j'irai pas chez Honda. Perso, là, je te dis ça comme ça. Là, mais sinon, combien t'as dit que ça coûtait cette voiture-là?
Mon Dieu, 363 700 $.
De combien de mirages pour ce prix-là?
Exactement, 392 700. Et une chose aussi qui est importante, c'est que la voiture, la production commence et vient de commencer. Ouais. Les premières livraisons se font maintenant. Mais le carnet de commandes affiche complet jusqu'au printemps 2025. Okay? Et là, il en reste là, pour le marché de l'Amérique du Nord à peu près 900 à vendre d'ici à la fin du cycle de vie du modèle qui va être dans à peu près 2 ans et demi. Fait qu'il y en a juste 900.
T'sais. Permets-moi d'être un petit peu sceptique sur ça parce que ils disent ça. Puis, ils avaient dit la même chose concernant la Artura.
Mais l'Artura, c'est autre chose. Là. Tu parles d'une hybride et tout. Oui. Tandis que celle-là, tu sais.
Oui. Mais tu te présentes chez un concessionnaire McLaren demain matin et t'en veux une, tu vas en avoir une.
Ah oui, non, c'est
pas comme. C'est pas
mais
comme
ça, une. Je te dis, il en reste 900. Allez la commander si vous voulez. Il y a des belles couleurs. Tokyo Cyan, j'ai trouvé ça très beau.
C'est plus facile d'obtenir ça que d'obtenir la Porsche 911, d'accord, qu'on a conduit toi et moi cette semaine.
Exact.
Ça, c'est le carnet affiche complet. Puis tu vois, il y a de la surenchère pratiquement au double du prix de sa valeur. Ça ne sera pas le cas avec une McLaren, malheureusement. On n'est pas rendu là. Mais des machines de sensations extraordinaires. Ouais. Merci les gars pour votre présence cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et Louis-Philippe devrait nous parler du révolutionnaire Volkswagen ID4 2024 complètement repensé.
Bonne semaine à tous.
Salut.
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.